un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter. Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21 ans.
Marie Richeux.
Et c'est que dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Patiemment, deux jeunes femmes afro-américaines, Quiana et Vanessa, racontent comment Jean Genet s'est rendu aux États-Unis au printemps 1970 de manière quasi clandestine pour y rencontrer et soutenir une cause révolutionnaire qui vaut beaucoup à ses yeux à ce moment-là, les Black Panthers. Pour agrémenter leur discours, elles font défiler des images sur des écrans de téléphone, leurs visages apparaissent et disparaissent d'un fond sombre, elles construisent, reconstruisent, montent, découpent le temps. Dans ce film, 22 Hours, votre œuvre la plus récente, elle porte un discours à part entière au sein de votre propre discours artistique, Bouchra Khalili, qui travaille depuis des années les paroles de résistance et la forme indirecte libre. Qui parle quand on parle? Voilà une question infinie qui vous agite beaucoup et qui par conséquent nous agite aussi. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Votre exposition s'appelle Blackboard, elle est visible au Musée du Jeu de Paume à Paris jusqu'au 23 septembre prochain.
Making a film, a blackboard and nothing else than like this blackboard. The place of the film is right here. But then it is your job, instead of being to see this blackboard and to work on it, it's your job as a student not to be anymore the same kind of student, and so that workers can be able to come here. It's not to us to go to the factory, because in a factory there is no place for blackboard for the moment.
C'est la voix de Jean-Luc Godard. Est-ce que vous pouvez nous en proposer une traduction comme vous voulez, aussi précise ou imprécise que vous voulez, Bouchra Khalili?
Ça sera une traduction qui sera circonstanciée, parce que Godard, à ce moment-là, qui fait partie du groupe Ziga Vertov, donc il ne signe plus les films sous le nom de Jean-Luc Godard, a essayé de proposer différentes définitions de ce que serait ce blackboard, ce tableau noir. Et ce qu'il dit à ce moment-là précis à ses étudiants d'une université américaine de la côte Est, c'est qu'un film, c'est ni plus ni moins qu'un tableau noir, et qu'il appartient au spectateur à qui il est montré d'en faire quelque chose, y compris de le déplacer dans des lieux où un film ne serait pas nécessairement à sa place. En l'occurrence, ce qu'il dit ici, c'est par exemple dans une usine. Et visiblement, ce qu'il a en tête, c'est aussi la question de l'alliance entre les étudiants en lutte et les ouvriers en lutte. Film faisant partie d'une sorte d'espace où ils pourraient se rencontrer.
On commence cet entretien en diffusant cette archive parce que vous reprenez ce mot « blackboard » pour en faire le titre de votre exposition. Pourquoi ?
Parce qu'il paraît qu'il faut des titres aux expositions.
On a refusé qu'il n'y ait pas de titre. Vous avez dit « j'en veux pas » et puis on vous a dit « ça ne va pas être possible ».
Non, mais je me disais, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce qu'il y a un titre que j'ai souvent utilisé comme titre d'une exposition à l'autre pendant plusieurs années, parce que je trouvais qu'il disait assez bien ce qu'étaient mes expositions, et qui était « The opposite of voice-over », le contraire d'une voix-off. Et ça me semblait bien comme titre pour une expo où beaucoup de gens parlent. Là, je me suis dit, non, là, on est ailleurs. Et je me suis souvenu du film de Ralph Tannhauser, où apparaît Godard, en l'occurrence, qui est sur la tournée de Godard et Gorin aux États-Unis. Je me dis, mais oui, effectivement, blackboard, ça renvoie aussi au cadre photographique, filmique, au cadre des images. Puis ça me faisait penser aussi à plusieurs textes de Duras autour du cinéma, où elle parle aussi du cadre, où elle oppose le cadre cinématographique au cadre blanc, qui serait le cadre du vide, de l'absence de l'histoire. Enfin, il y a un certain nombre de textes de Duras où elle tisse une dichotomie entre le noir du film et le blanc de l'absence de l'histoire. Et comme je sais que Godard était très impressionné par Duras, qu'elle a participé à un de ses films, je crois, film de 81, sauf qu'il peut la vie. Enfin, en fait, elle a participé par la voix, parce qu'elle ne voulait pas être filmée. Bref, ça me semblait une manière de rassembler un certain nombre de choses ensemble, tout en ayant une sorte de titre énigmatique. Et puis aussi parce que le tableau noir, on peut être plusieurs à écrire dessus. C'est pas nécessairement le tableau du professeur qui te donne sa leçon, c'est aussi le tableau qui peut être partagé, où différentes histoires peuvent se raconter. Il se trouve que dans mes œuvres, beaucoup de gens écrivent, dessinent. Voilà, ça me semblait bien.
Vous dites, j'ai repensé à l'expression blackboard dans la voix de Godard dans ce film-là, et puis aussi à Scandi ou à l'interaction avec Duras. Et puis, donc ça veut dire qu'il y a une forme de constellation, on y reviendra peut-être plus tard sur ce mot-là, Bouchra Khalili, une constellation de pensée qui, à l'intérieur de laquelle vous vous inscrivez. Le fait que ce mot-là de Godard des années 70 vous revienne, ça veut dire qu'il est là, il plane.
Par exemple, à la fin de Temple Society, qui est montrée dans l'exposition, les protagonistes de l'œuvre se rassemblent littéralement devant un tableau noir. C'est une œuvre produite en 2016.
C'est un film.
C'est un film d'une heure. et d'une certaine manière, ils scriptent le film, mais a posteriori. Ce qui me semble une forme de transparence quant au dispositif qui est déployé dans le film. Ils annoncent qu'ils vont raconter plusieurs histoires, qu'elles sont liées entre elles, que les fils peuvent être parfois ténus, mais qui fonctionnent essentiellement sur des modes de résonance. Donc les liens ne sont pas nécessairement évidents, mais ils résonnent les uns avec les autres. Alors il se trouve qu'effectivement, j'aime beaucoup le motif de la constellation comme motif plastique, visuel, mais c'est aussi une manière de réfléchir, et il se trouve que c'est aussi une manière de faire du montage. Possiblement, enfin, ça peut même décrire la pratique du montage comme geste, y compris au sens du travail manuel. Donc en effet, c'est une chose qui est très présente dans mon travail, et là vous parliez de mise en résonance, de référence possible. Il se trouve qu'on pourrait éventuellement définir comme un imaginaire artistique / intellectuel est lié au film et au livre, beaucoup plus qu'à l'art contemporain.
On est accueilli dans l'espace du Jeu de Paume par des constellations, sur des fonds bleus très puissants. Elles sont assez minimalistes, ces points qui clignotent sont blancs, ils sont agrémentés de noms de villes, et les trajets entre ces points qui clignotent sont d'autres petits points qui clignotent plus ou moins fort.
Quand vous dites clignoter, c'est au sens métaphorique.
Oui, ils clignotent pas. Mais ils clignotent fort, et on comprendra plus tard à quel point ils clignotent, parce qu'ils sont des points de passage de vie, en fait, et d'existence. Ce motif de la constellation renvoie aussi à toute l'utilisation que vous faites depuis des années de la carte. Est-ce que vous savez, avec le temps, ce qui fait votre attachement à cette forme-là ?
Il y a, je sais pas, une vingtaine d'années, je lisais une série d'entretiens avec Danet.
Serge Danet.
Voilà, et je crois que c'est dans Itinéraire d'un cinéphile, où il parle de l'atlas de géographie comme de la première image qui a compté pour lui. Alors évidemment, moi ça m'a parlé immédiatement, puisque j'ai toujours eu une passion pour les atlas, les cartes, comme des formes de récit, beaucoup plus que comme des modalités de référencement de l'espace ou de localisation de soi ou des autres dans un espace. C'est des récits. Alors c'est des récits au carré ou N, parce que c'est aussi le récit de l'histoire impériale, de l'histoire coloniale, des histoires de conquête, des histoires de défaite. Je vais pas en faire une sorte de point biographique qui aurait fixé des choses pour toujours, mais il se trouve que oui, j'ai un goût pour les cartes, la topographie, et la manière dont j'organise même mon travail avec des petits cahiers, ça ressemble beaucoup plus à des cartes qu'à des notes.
Mais d'ailleurs, quand on se promène dans cette exposition-là, au Jeu de Paume, on peut aussi avoir l'impression que nous-mêmes nous promenons dans un ensemble de points. Quand je dis points, c'est aussi des sortes des coordonnées, quoi. Ce n'est pas uniquement des points qui clignotent, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi la sensation que plusieurs lignes se retrouvent pour qu'on forme un point ou ces points-là. Comment est-ce que vous avez pensé l'ensemble de cette exposition qui reprend des travaux? J'ai cité pour entrer, et puis on va y revenir, ce film 22 Hours, qui est vraiment une production de 2018. Mais plus on avance, enfin, on rencontre des travaux qui sont plus anciens. Comment l'avez-vous pensé, cette exposition-là?
D'abord, je dois dire que Martha Gili,
qui dirige le Jeu de Paume,
ouais, m'a fait une confiance totale.
Ça fait plaisir.
Donc, elle, Et je la remercie vraiment beaucoup pour ça, parce que c'est assez rare qu'on puisse jouir d'une telle liberté pour construire une exposition, y compris physiquement dans l'espace. Et c'est vrai que la manière dont j'accroche mes œuvres, en règle générale, relève pas du parcours fléché qui serait censé donner une direction unique aux visiteurs. D'abord parce que moi j'ai confiance dans les personnes qui viennent voir l'exposition et qui viendront voir l'exposition. Ils peuvent cheminer littéralement dedans selon leur propre manière de se repérer dans cette exposition. Et de ce point de vue-là, elle est effectivement conçue comme une constellation, sans début ni fin. Elle forme aussi une boucle au sens cinématographique du terme, comme un film qui recommence. Donc effectivement, elle n'est pas conçue sur un mode chronologique. Elle est plutôt conçue comme une sorte une constellation où on commencerait à comprendre les articulations entre les œuvres progressivement. Et comme je le dis dans l'entretien avec Omar Barrada, j'ai pas besoin de flécher le parcours. Je pense que les œuvres ont suffisamment de choses à se dire entre elles, parce que moi c'est comme ça que je les regarde. Lorsque Hans Zimmer parle dans Speeches Chapter 1, je sais qu'il répond à Kanté dans Speeches Chapter 3, mais qu'il parle aussi avec Doug Miranda qui est dans 22 Hours, et qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Et que les personnes qui viennent visiter l'exposition, d'une certaine manière, ils font partie de ce dialogue, puisqu'ils le rendent possible aussi, dans la mesure où
elles font le lien.
Voilà.
Elles ont beaucoup de choses à dire, ces personnes, ou ils ont beaucoup de choses à dire, ces discours entre eux, notamment sur des articulations historiques. C'est-à-dire que quelle que soit la parole sensible qui émane des personnes que vous filmez, vous parlez des speeches, peut-être vous pouvez dire ce dont il s'agit, ces vidéos.
C'est une trilogie que j'ai réalisée entre 2012 et 2013. Enfin, chacun a un titre pour chacun des films. Le premier s'appelant Mother Tongue, la langue maternelle. Words on Street, c'est un peu intraduisible, mais en gros...
Des mots de la rue.
Des mots dans la rue.
Des mots dans la rue.
Et Living Labor, travail vivant. Et en fait, d'une certaine manière, cette série, c'est à la fois le discours de la méthode et le discours. Et elle est conçue de cette manière-là, puisque dans le premier chapitre, je dirais que la question de qui parle, elle passe à travers le choix de réciter dans une langue maternelle qui n'a pas de transcription écrite, des écrits. Et en l'occurrence, des écrits qui appartiennent à l'histoire de la pensée et de la littérature anticoloniale et décoloniale. En l'occurrence, 5 personnes vivant à Paris, locuteurs de langues qui ne s'écrivent pas comme ma propre langue maternelle, l'arabe marocain, et qui ont choisi un texte qui leur semble refléter leur propre position. Et l'appropriation, là, elle passe par le choix du texte. En l'occurrence, je parlais d'Anzuman, lui, il a choisi et il tenait absolument à ce que ce soit un texte de Malcolm X. Et donc, c'est son dernier discours. Tout dernier discours qu'il a prononcé et qu'il a traduit en malinké, qui est sa langue maternelle, et qu'il récite dans un marché couvert ici à Paris où il travaille. Et où il est à la fois une sorte de voix contemporaine de Malcolm X, mais aussi Hans Zimmer lui-même parlant pour lui-même avec les mots de Malcolm X. Donc il y a une sorte de mise en résonance en effet de l'histoire, mais aussi de la position subjective, telle qu'elle est aussi construite à partir d'une appartenance à une certaine histoire. Et qui est une histoire qui est souvent pas définie comme relevant de l'histoire, ou plutôt de l'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoire. Dans le même film, par exemple, Sadia, qui est originaire d'Afghanistan, récite en Dari une lettre d'Abdelkrim al-Khattabi qui lui semblait absolument refléter la situation de l'Afghanistan de ces 40 dernières années maintenant. Et puis ensuite, dans la trilogie, il y a une sorte de déplacement qui s'opère à partir de Words on Street, du deuxième chapitre, où on passe de l'appropriation de textes existants à la production de textes, mais selon, je dirais, la même méthode, c'est-à-dire une forme d'écriture sur l'écriture. C'est un peu complexe à expliquer, mais les textes sont produits au cours de très longues conversations où moi je suis une sorte de scribe, où je prends en note absolument tout ce qu'ils me disent. Et on se voit jusqu'à ce qu'ils arrivent à une version qui les satisfasse.
Et c'est des conversations qui portent sur quoi ?
en général deux questions. Il n'y a pas d'interview et aucun des films n'est un entretien ou une interview.
C'est vraiment un discours. Le film, oui. On peut dire que c'est vraiment un discours, oui. Clair et net. Et les deux questions ?
Par exemple, pour Living Labour, il n'y en avait qu'une. Ma question, c'est est-ce que vous considérez appartenir à la classe ouvrière ? C'était ma seule question. Et voilà. Donc il y a même pas de... Enfin, c'est pas du tout conduit comme un entretien journalistique. C'est vraiment une conversation qui peut vraiment durer plusieurs semaines, mais qui est un moment que moi j'aime beaucoup, où ils s'approprient leurs paroles. Où ils deviennent les auteurs de leurs propres paroles aussi.
Et c'est ce qu'on voit finalement à l'image. Alors vous disiez le discours de la méthode, le discours et la méthode.
Oui, parce que si on regarde attentivement, on voit que les coupes de montage correspondent à des paragraphes. Et lorsque c'est tourné, ils savent quel plan vient avant, quel plan vient après. C'est tourné chronologiquement. Et là, c'est le cas pour vraiment tous les films, y compris le dernier, parce qu'il n'y a pas d'acteur. Et je mets un point d'honneur à tenir à la chronologie, y compris de tournage, à ce qu'ils soient informés de où sont situées les coupes.
Pour n'être pas auteur ?
Non, pour qu'ils sachent, pour qu'ils aient en tête tout le déroulement du film. Parce que, je ne sais pas, si on prend un film comme 22 Hours, que Kiana et Vanessa portent du début à la fin, qui dure quand même 43 minutes, il faut qu'elles sachent exactement ce qu'on est en train de faire, pourquoi, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, etc. etc. Donc, lorsque je parle de méthode, je parle de ça aussi.
On sent un point très important au fait de s'y tenir, et qui est une forme de très grande clarté dans la proposition qui est faite, y compris dans la manière dont les choses nous sont adressées à nous, spectateurs de l'exposition Bouchra Halimi. On sent que dans votre relation avec les personnes que vous faites entrer dans votre dispositif artistique, le pacte est genre transparent, quoi.
C'est la moindre des choses, non? Il me semble.
Peut-être que je le souligne parce que c'est pas forcément toujours le cas.
Ouais, je sais pas, ça me semble évident, naturel. Enfin, on est en train de faire quelque chose ensemble, donc. Je sais pas, pour moi c'est important, mais en même temps c'est le minimum.
Pour parler de ce film 22 Hours, dont je citais une partie des images en introduction, deux jeunes femmes racontent la manière dont Jean Genet arrive aux États-Unis en 1970. Et on entendait tout à l'heure la voix de Godard aussi aux États-Unis en 1970, pour des raisons différentes, en tout cas d'une manière différente, mais c'est étonnant qu'il se retrouve sur cette date-là. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans le voyage de Genet en 1970 ?
En réalité, je travaillais sur cette œuvre depuis... j'ai retrouvé des notes il y a quelques jours, depuis 2013. Mais en général, je développe des projets pendant plusieurs années. Et c'est plutôt le moment de les produire qui crée la chronologie, ce qui peut apparaître comme une forme de chronologie dans mon travail. Mais For Any Office, par exemple, je l'avais en tête avant même de devenir une artiste. 22 Hours, en réalité, aurait pu être produit avant Tempest Society, mais Tempest Society existait comme projet depuis 2012. Speechless Series, je commençais à réfléchir sur cette œuvre à partir de 2009. Donc les projets se développent pendant plusieurs années, parce que c'est des histoires que j'ai en tête et qui informent mon travail d'une manière ou d'une autre, et dont je sais qu'un jour je vais produire quelque chose autour. Donc j'accumule des choses. Je suis pas du tout en train de répondre à votre question,
mais je suis patiente.
Mais je vais y venir. Si on regarde la visite de Godard et Genet du point de vue, par exemple, d'une certaine histoire de l'internationalisme ou d'une certaine histoire de la solidarité offerte de manière inconditionnelle, c'est très proche de For Any Office, d'une certaine manière. Il se trouve que dans l'état de la lutte contre la guerre du Vietnam aux États-Unis à ce moment-là, et de l'importance absolument capitale des Black Panthers à ce moment-là aussi, ça se tient absolument que quelqu'un comme Jean Genet ou Jean-Luc Godard, qui à l'époque est en train de chercher des financements pour faire un film dans des camps palestiniens en Jordanie, d'une certaine manière se croisent. Et le film raconte ça aussi, puisque lorsque Godard arrive à Yale, les préparatifs du May Day sont déjà en train d'être mise en place. Genet va y participer, Godard s'en va, mais 6 mois plus tard, c'est Genet qui est dans, exactement dans les mêmes camps palestiniens en Jordanie, dont l'expérience produira 15 ans plus tard le captif amoureux, où il parle à la fois des Palestiniens et des Black Panthers. C'est pas une coïncidence en réalité.
Non, c'est ce qui fait aussi que les points clignotent. C'est-à-dire qu'au final, il y a quelque chose qui clignote aux États-Unis en 1970 et qui fait que ces deux personnes-là, parce que peut-être elles sont artistes, ou qu'elles ont une sensibilité aussi au moment, à l'histoire ou aux humains, se retrouvent à cet endroit-là. De même, pour en revenir à Foreign Office, que se retrouve à Alger en 1969, qui devient là aussi un point clignotant, ou un point, c'est peut-être pas le bon mot que je trouve en utilisant clignotant, mais aimant, au sens d'aimanter des choses. Voilà, comme si vous étiez attentif, vous, Bouchra Khalili, à des endroits qui, dans l'histoire, aimantent les hommes. C'est ça.
Bah, c'est aussi des lieux qui sont considérés comme des lieux périphériques, parce que même si on inclut là-dedans les États-Unis, qui est en effet un espace historique, géographique, idéologique très différent de l'Algérie, il y a néanmoins des périphéries aux États-Unis même qui sont des espaces de contestation.
Y compris, par exemple, dans les universités.
Exactement, ce qui était une chose extrêmement importante dans le contexte culturel américain de l'époque. C'était une périphérie de la politique impériale du pays, en particulier vis-à-vis du Vietnam à ce moment-là. Donc, mais c'est pas considéré comme des espaces centraux ou des points centraux. Et effectivement, moi, je suis en général très intéressée par parce qu'on définit de l'extérieur comme des espaces périphériques et que moi je considère comme à l'inverse central. Parce qu'il y a des choses qui se définissent extrêmement importantes dans ces endroits-là. Ouais.
C'est un voyage dans le temps, mais en arrière. Parce que c'est vrai, les outils n'existent plus. Tout le monde, on dit en italien, c'est mappisé. Il n'y a plus des endroits qui ne sont pas dans les maps que nous avons sur la table.
Les cartes.
C'est-à-dire, les outils, en réalité, historiquement, n'existent plus. Mais on peut trouver des survivants. Et c'est la recherche de ces survivants que j'ai fait dans mes films. Sous la surface visionnaire, onirique du film, il y a un autre film qui est réalistique et aussi documentaire. Et ça, c'est la vérité, parce que les paysages sont les véritables paysages de l'Yémen, de l'Iran, etc. Les peuples, c'est les peuples que j'ai vus là. C'est-à-dire, dans 10 ans, mon film, c'était un document de la réalité actuelle de ce pays-là.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Une archive de Pier Paolo Pasolini qui utilise un très joli mot entre l'italien et le français et l'anglais, mappiser des endroits qui ne sont pas ou plus sur les cartes et qui, à propos de son film Mille et une nuits, dit que sous le caractère visionnaire, imaginaire, fantastique de ce film-là, il produit en réalité un document de la réalité des peuples qu'il filme et qui sera très important quand ces peuples ne seront plus les mêmes ou quand les choses, les géographies, toutes formes de géographie ne seront plus les mêmes dans 10 ou 20 ans. Pier Paolo Pasolini, c'est une figure qu'on trouve dès le départ, quand on entre dans votre exposition, Bouchra Khalili au jeu de paume, comme, là aussi, j'ai pas d'autre mot, un point clignotant, quelqu'un qui va être avec nous, qui va entrer dans la carte, en fait, de votre discours artistique, notamment à travers l'idée du poète civil. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette notion-là ?
En fait, l'exposition, elle articule deux figures d'une certaine manière. Et c'est bien que Jean Genet et Pasolini se retrouvent dans l'exposition, parce qu'il y a à la fois le poète civil et le témoin. Et Genet, qui propose une définition du témoin, la propose depuis sa position de poète. Alors effectivement, c'est une question à laquelle je réfléchis depuis le début de mon travail. Parce que quand on produit des œuvres, on réfléchit aussi à la position à partir de laquelle on les produit. Alors, je dirais, la manière simple de qualifier ma position, ça serait de dire, par exemple, artiste engagé, artiste politique, artiste, différents adjectifs, et poète civil, Ça sert pas à me définir moi, et c'est ça que je trouve intéressant. Et d'ailleurs, quand j'y fais référence dans le catalogue, ou lorsqu'il est fait référence à Pasolini dans le texte d'introduction à l'exposition, ce dont il est question, c'est pas de ma position d'artiste, c'est de ceux qui sont dans les films et qui sont représentés, les poètes civils, c'est eux. Et lorsque Pasolini parlait du poète civil, il parlait pas de lui. Il parlait d'une position possible de celui qui s'adresse aux autres. Et qui s'adresse depuis sa propre position subjective et qui est absolument conscient que sa position subjective peut potentiellement articuler une position collective. Parce que cette position collective n'est pas présente ou représentée ou dite, prononcée dans l'espace public. On parlait tout à l'heure de Words on Streets. C'est évidemment en référence au poète civil pasolinien. C'est le film qui est parlé intégralement en italien du début à la fin. Sauf que ces poètes civils, c'est ceux qui ne sont justement pas définis comme appartenant à la tradition italienne. Et pourtant, ils représentent cette tradition de la représentation des sans-voix. Alors même qu'ils parlent depuis leur position subjective. Voilà, c'est pour ça que le poète à civil et pasolinien m'intéresse beaucoup, parce que en réalité, il dit beaucoup plus de ceux qui sont présents dans les œuvres que de celui ou celle qui les produisent. En l'occurrence, celui qui l'a défini, Pasolini, comme poète civil, c'est Moravia, dans son éloge funèbre. Mais Pasolini ne s'est, à ma connaissance, représenté en poète civil qu'une seule fois dans un seul poème, qui est d'ailleurs cité dans The Tempest Society. Voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, la position du poète civil, parce que d'une certaine manière, et on commençait l'entretien avec la question de la subjective indirecte libre, c'est aussi une manière de traduire une possible subjective indirecte libre. C'est plusieurs personnes qui parlent, en réalité.
Et il y a, vous le dites aussi, la qualité de témoin qui diffère de celle du poète civil. Vous le dites que Jean Genet, il pense cette place de témoin à partir de sa propre place de poète. Où sont les témoins ? Qui sont les témoins dans les différentes œuvres que vous montrez au Jeu de Paume en ce moment ?
Kiana et Vanessa, elles posent la question littéralement. la dernière partie du film, voilà, elles disent littéralement qui est le témoin. Est-ce que c'est celui dont les mots ont survécu après sa mort ? Est-ce que c'est celui dont le souvenir est demeuré avec nous au-delà de la mort ? Ou est-ce que c'est celui qui peut encore parler ? Moi, je dirais pas que l'exposition répond à la question. L'exposition, peut-être, pose la question de la position du témoin, mais qui n'est pas celui qui apporte une parole brute et qui est aussi conscient de parler pour plusieurs, enfin, parler avec plusieurs. Et avec plusieurs qui ne sont pas là, pour différentes raisons.
Et est-ce que vous pensez que, par conséquent, nous pouvons, nous qui écoutons et regardons ces paroles se déployer, dans le temps et dans l'espace, devenons aussi témoins ?
Oui, absolument. C'est une discussion que j'ai eue avec ma mère, par exemple, à plusieurs reprises, sur la pertinence de faire des expositions. Elle, tenant particulièrement à l'écrit, au livre, parce que le lecteur, il n'est pas témoin de l'écrit, il en devient porteur, puisqu'il garde le livre. Et on a souvent discuté de la position d'un spectateur dans une exposition. Qu'est-ce qui reste d'une exposition avec un spectateur ? Le fait de pouvoir potentiellement devenir un témoin aussi, puisque ces histoires sont destinées à circuler et à voyager potentiellement avec ceux qui les ont vus. Oui.
Par exemple, moi j'ai eu le sentiment très fort hier en sortant du musée du Jeu de Paume que vraiment, ça m'a traversée, je me suis dit dans 10 ans je pourrais dire que ces histoires-là se sont racontées au cœur de Paris. Il y avait vraiment quelque chose de très puissant dans la manière dont ça avait lieu, quoi. On ne pourra pas dire que ça n'a pas eu lieu. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. On ne pourra pas dire que ces histoires n'ont pas été dites.
Vous êtes devenu un témoin.
Voilà.
Est-ce que vous pourrez le raconter à votre tour ?
Je pourrais raconter à mon tour, par exemple, des histoires qui interviennent à la toute fin de l'exposition. Si on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de chemin, mais au fond des salles, en tout cas, des cartes où l'on voit des mains relier des points, qui sont des points de trajet migratoire, et un discours suivre ou ne pas suivre le mouvement de cette main pour dire ce récit migratoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail-là ?
Bah, c'est un dispositif extrêmement simple et minimaliste. Des cartes politiques du monde. Parce qu'on voit clairement que là, les frontières, elles ne sont pas produites par la géographie naturelle des lieux, mais par l'histoire. Avec une exception pour Mapping Journey No. 3, puisque c'est une carte de la Cisjordanie. Donc ce n'est pas une carte que j'ai achetée dans le commerce. Celle-ci, on ne la trouve pas dans le commerce. Et on voit des personnes qui sont forcées de voyager clandestinement, puisque le droit à la mobilité leur est refusé, dessiner, recouvrir littéralement cette carte avec leur propre trajet et raconter d'une manière extrêmement précise et factuelle les différentes étapes du voyage et là où ils en sont au moment où, où on s'est rencontrés. Donc l'installation est conçue autour de 8 vidéos qui sont 8 trajets complètement différents, absolument singuliers, qui n'ont pas valeur d'illustration ou d'exemple de la crise des réfugiés ou de ce qu'on définit comme tel dans les médias actuellement, d'autant plus que la première vidéo a été produite il y a 10 ans quand médiatiquement la crise des réfugiés n'existait pas. Mais moi, je suis originaire du Maroc, donc je sais bien que depuis les accords de Schengen, pour l'essentiel des Nord-Africains, par exemple, puisque c'est la partie de l'Afrique que je connais le mieux, il faut un visa pour aller en Europe, ce qui n'était pas le cas avant. Donc la question de la mobilité dans cette œuvre, elle est posée en réalité en termes de droit et de citoyenneté. C'est pour ça que vous aurez sans doute remarqué que dans la plupart des documents qui ont été produits autour de l'exposition, y compris dans le catalogue, le terme migrant n'est pas utilisé. En tout cas, moi, je ne l'utilise pas. Parce que je ne vois pas des migrants, je vois des citoyens qui n'ont pas de droit. Et ce qu'on voit actuellement à Paris, c'est des citoyens qui n'ont pas de droit et qui sont traités comme tels, à qui on n'accorde pas de droit, qui on ne veut pas accorder de droit. Parce qu'on ne le reconnaît pas, la qualité de citoyen. Et quand je parle de citoyen, c'est pas de citoyen au sens de l'appartenance à l'État-nation. C'est de l'être humain, citoyen, qui a des droits politiques. Donc c'est pas non plus une position humanitaire, c'est une position...
politique.
On peut éventuellement le définir comme ça.
Ouais. Sinon quoi d'autre?
C'est pour ça que, en règle générale, lorsque on me demande, oui, alors c'est une pièce sur les migrants, non, c'est une pièce sur... l'incapacité des États-nations à concevoir autrement les autres que comme des gens à exclure d'une appartenance qui a été définie. Que ce soit sur une base ethnique ou sur une base d'une préférence X ou Y. Donc moi, je préfère parler de citoyens à qui des droits sont refusés.
Mais pas la parole, en tout cas dans ce travail-là. Et vous ne filmez pas leur visage, mais leurs mains. Ce n'est pas le seul moment de votre travail où les mains reviennent et sont filmées. Elles peuvent intervenir comme des plans de coupe dans les discours dont on parlait tout à l'heure. Elles peuvent intervenir comme des mains qui montent le film, parce qu'elles vont déplacer des photographies. Dans différents films, ça intervient. Parce qu'elles vont, je ne sais pas comment on dit, sweeper, ou je ne sais pas comment on dit, comment on passe une image sur un écran tactile, là. Elles vont faire ce geste-là, faire défiler, voilà. Les mains sont présentes et ici elles sont extrêmement importantes puisqu'elles disent le trajet du départ forcé à être clandestin d'un point à un autre. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est le moment où la main est en suspens et elle attend le discours pour pouvoir avancer. Et il y a vraiment quelque chose non linéaire et qui dit l'existence, qui dit les arrêts, qui dit les contraintes. Qu'est-ce que vous filmez quand vous filmez les mains de tous ces êtres? J'imagine que vous avez forcément relevé la récurrence de ce motif-là.
D'abord, c'est une métonymie.
C'est le corps.
Voilà, et produire une image, c'est produire une métonymie qui peut parfois être aussi une métaphore. Mais pas nécessairement, c'est pas obligatoire. Donc c'est une manière de dire, ceci est une image, puisque ceci est une métonymie. Mais c'est aussi une manière de préserver une forme de droit à l'opacité. À un moment, mais encore une fois, c'est pas nouveau du tout. On parlait de témoins tout à l'heure. Moi, j'en ai été témoin dans le sud de l'Espagne, au tout début des années 2000. Il y avait déjà beaucoup, beaucoup de journalistes qui attendaient les pateras et qui attendaient de filmer des migrants assoiffés, fatigués, épuisés, qui venaient d'être secourus, par exemple, par la Croix-Rouge espagnole. Et ça me frappait beaucoup. Pourquoi ? Nécessairement, l'image qu'il faut ramener, c'est l'image d'un visage épuisé, Qu'est-ce que c'est que cette image et qu'est-ce que vous espérez raconter en montrant une image comme ça? Enfin, tout à l'heure, vous avez passé cet extrait d'un entretien de Pasolini à propos des Mille et une nuits. Il me semble qu'à peu près en même temps, il publie un texte qui s'appelle « De la disparition des Lucioles » où il diagnostique la fin de la nuit, d'une vraie nuit noire qui permettait que les Lucioles puissent conserver leur espace naturel d'une certaine manière. Et il diagnostiquait dans l'usage du mirador qui aveugle et qui suréclaire une sorte de terrifiant monde moderne. Bah ça, quand je vois ces caméras qui se précipitent sur les plages, je vois des miradors en réalité, qui aveuglent des personnes qui sont en état de détresse et de précarité totale. Bah ça me semble d'une violence inouïe comme geste. Alors la main, c'est effectivement une métonymie qui renvoie au corps, mais c'est aussi une métonymie opaque, dans le sens où l'opacité, qui est un droit, est préservée. Ils n'ont pas à être montrés. Je n'ai pas à montrer leur visage et je n'ai pas à exposer leur visage. Mais évidemment, ça renvoie aussi au geste de la fabrication de quelque chose, de la production, puisque ce qui est montré aussi, c'est la production d'un récit et la production d'une cartographie qui n'est pas la cartographie qui est produite du point de vue du pouvoir. C'est une cartographie autre. C'est la cartographie qui naît de leur forme de résistance, de leur geste de résistance, de l'endurance dont ils ont fait preuve. C'est pour ça que la main est effectivement présente d'une manière récurrente dans mon travail, parce qu'elle, vous y faisiez référence comme à une forme de transparence, mais effectivement, les choses, elles sont montrées au moment où elles sont produites. Pour parler de Foreign Office, par exemple, l'espèce de film parallèle qu'ils sont en train de réaliser à l'intérieur même du film, il est fait avec les mains. Mais de la même manière que quand je monte des films, je les monte avec les mains. C'est les mains qui travaillent. C'est pas autre chose.
Ножки мишмирня, микрула пушендер димухи вани, ке понош при гардия. Микрула пушендер димухи вани, ке понош при гардия. Меня никто като что паша лимани. Μια νόστη μη σμυρνιά. Μου λέει τρέξε στη βαρκούλα και έλα. Σε θέλω συντροφιά να πάμε μια τσαρκούλα στην Καστέλα στην όμορφη βραδιά. Να πάμε μια τσαρκούλα στην Καστέλα στην όμορφη βραδιά. Μου λέει τρέξε στη βαρκούλα και έλα. Σε θέλω συντροφιά. Η βάρκα θα πηγαίνει αγάλι αγάλι στα κύματα γλυκά. Σε πλάνο θα μας φέρει αυρογιάλι σε μέρη μαγικά. Σε πλάνο θα μας φέρει αυρογιάλι σε μέρη.
περί μαγικά. Η βάλκα θα πηγαίνει αγάλια γάλι στα κύματα γλυκά.
Parlons du cinéma parlant, si vous voulez. Bon, je peux dire en gros que lorsque la parole intervient au cinéma, elle intervient après l'image, n'est-ce pas ? On vous présente un personnage et ensuite, ce personnage se met à parler. J'ai toujours éprouvé une sorte d'insatisfaction au moment de la prise de parole du protagoniste au cinéma. Je pense qu'il y a là un divorce qui n'est pas encore résolu. La violence de l'image, la puissance d'un visage au cinéma est toujours plus grande que la parole qui en sort, vous voyez. C'est une chose dont je ne souffre pas du tout au théâtre. À mon avis, le cinéma n'est pas encore parlant. On a été timide avec la parole. Je trouve qu'il n'y a pas encore eu de film parlant à proprement parler.
On est en 1966, c'est la voix de Marguerite Duras. C'est une phrase, il n'y a pas encore eu de cinéma parlant à proprement parler, qu'Elisabeth Lebovici reprend pour parler de votre travail, Bouchra Harli. Il va y avoir beaucoup de mots parlés dans cette phrase. Dans le catalogue, le livre qu'édite le Musée du Jeu de Paume où vous exposez en ce moment, c'est intéressant, je trouve, ce qu'elle dit de son insatisfaction. C'est très décevant pour elle, la parole. On est en 1966 dans le cinéma. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'elle dit là ?
Bah, je comprends qu'en 66, elle n'a pas encore fait de film. Donc elle est très déçue.
Elle est hyper déçue.
À mon avis, des adaptations cinématographiques de ses livres ou des scripts qu'elle a pu écrire pour d'autres. Oui, elle n'est pas contente. Elle sait déjà qu'elle va faire beaucoup mieux. En tout cas, à partir de ses écrits. Moi, ce que j'entends, c'est aussi une sorte de réponse, et c'est pas étonnant que ce soit aussi un écrivain, à Pasolini, qui, lui, considérait qu'on pouvait commencer l'histoire du cinéma avec le cinéma parlant. Enfin, qui dit, d'une certaine manière, le contraire, mais en réalité, il dit exactement la même chose. À savoir, qu'est-ce que c'est le statut de la parole dans un film? Vous commenciez l'entretien en posant la question de qui parle quand quelqu'un parle. Lorsque Duras parle de la puissance du visage, elle dit pas la puissance du personnage ou la puissance de l'acteur qui porte le personnage. Ou elle comprend le visage comme ce qui écrase, d'une certaine manière, une position subjective ou la subjectivité ou soi, tout simplement. Elle voit une forme d'autoritarisme dans l'image, dans la puissance d'une image filmée. Mais lorsque Pasolini conçoit que d'une certaine manière on peut considérer que le cinéma commence avec le parlant, il prend la question par l'autre bout. Mais c'est...
C'est-à-dire, il dit quoi ?
Je ne me souviens plus exactement de la manière dont il le dit.
Non, bien sûr, mais dans l'idée. Il prend par l'autre bout en disant rien n'écrase la parole.
Non, c'est qu'il ne peut pas y avoir de cinéma sans la parole. C'est ça qu'il veut dire. Et que ce qui fait du cinéma une langue, parce que lui, il le pose d'un point de vue plus théorique... En essayant pratiquement de faire une proposition solide d'une certaine sémiologie du cinéma qui correspond aussi à l'époque. Enfin, elle parle en 66. En 66, la question se pose de savoir est-ce que le cinéma est une langue ? Est-ce que le cinéma est un langage ? Barthes écrit des textes, Christian Metz en écrit aussi. C'est un vrai débat théorique à l'intérieur du monde académique. Et Pasolini, qui n'appartient pas au monde académique, se mêle de cette histoire. Il me semble qu'en 66, justement, il participe au festival de Pesaro en Italie. Il y a un colloque où il pose la question, alors le cinéma c'est quoi ? Est-ce que c'est une langue ? Est-ce que c'est un langage ? Et lui, il fait une proposition et il dit le cinéma c'est une langue. Et c'est articulé exactement comme une langue du point de vue linguistique. Et la parole jouant pratiquement une sorte de méta-langue à l'intérieur de la langue que constitue en soi le film comme forme discursive d'une certaine manière. Et Duras, quand elle dit le cinéma n'est pas encore parlant, elle dit presque d'une certaine manière la même chose. Elle dit le statut de la parole au cinéma n'est pas celui de la parole encore. Il est celui éventuellement d'une illustration, de quelque chose qui est... Il y a un entretien très drôle avec Godard des années 80, je crois, pour l'émission Océanique, qui a été filmée par Pierre-André Boutang, où elle lui dit littéralement « Oui, mais chez toi, la parole est toujours racolée. » C'est violent, parce qu'elle l'accuse pratiquement de prostituer la parole, mais il l'admet. Alors, c'est très intéressant qu'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma, lui-même ne soit pas satisfait du statut de la parole dans ses films. Je ne suis pas du tout en train de répondre à votre question, je fais des digressions dans la digression, mais il me semble que ce que dit Duras lorsqu'elle dit que le cinéma n'est pas encore parlant, c'est que ce que le cinéma devrait être, c'est-à-dire un cinéma capable de parler, n'est pas encore capable de le faire. Et lorsque Pasolini dit « on peut considérer que le cinéma commence avec la parole », il le dit parce que pour lui, le cinéma, c'est même une langue.
Et on a l'impression que vous le suivez, lui, Pasolini, dans le fait que le cinéma serait une langue et qu'à l'intérieur de cette langue-là, la parole ou le langage jouerait une métalangue. J'essaie d'être plus claire. Vos films montrent des êtres qui sont maîtres de leur discours et de l'articulation de ce discours, et y compris leurs gestes, vaut pour des moments du langage. Quand ils font passer des photos, quand ils enlèvent des photos du cadre, quand ils se taisent, quand leur visage sort un peu de la pénombre ou ils retournent. Moi, j'y vois vraiment de la ponctuation, des paragraphes, vraiment un texte. Et je ne suis pas la seule, puisque Marta Gili, directrice du Jeu de Paume, dit « Bouchra Halimi écrit en filmant ». Je ne sais pas si elle le dit dans ce sens-là, mais manifestement, il y a quelque chose, vous disiez tout à l'heure « je suis scribe », quelque chose qui se joue du point de vue de l'écriture que vous ne lâchez jamais.
On peut peut-être le voir comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Et c'est là où, d'une certaine manière, en réalité, je suis plus d'accord avec Duras, finalement,
que Pasolini.
C'est que la question du son, c'est en réalité de l'image. Le son est une image. On parlait tout à l'heure de la main, de la métonymie, mais parce qu'il n'est pas nécessaire de montrer davantage que ça, dans la mesure où, à partir du moment où il y a du son, il y a de la présence. Ça existe. En arrivant ici tout à l'heure, j'étais contente de voir que c'était pas filmé, parce que j'aime bien la radio pas filmée.
Vous pouvez le redire ?
Je n'aime pas la radio filmée. Je préfère la radio pas filmée, parce que d'abord, c'est, en général, c'est mal filmé, c'est pas intéressant à regarder. Et je sais pas, j'ai toujours eu un rapport très fort au son. J'aime beaucoup le son, et j'aime beaucoup le son, écouter le son dans les films. Et le son m'intéresse beaucoup, mais comme dimension invisible de l'image. Donc si on le pense aussi du point de vue du montage, on monte aussi avec du son. Et dans mon cas, comme je monte aussi mes films, je monte aussi le son. Ils vont ensemble, ils sont indissociables. Ils contribuent à part égale à l'objet.
Dans le film Foreign Office, dans le film qui fait partie de Foreign Office, il y a une situation de dialogue, on pourrait dire ça. Une jeune femme et un jeune homme évoquent, entre autres choses, 1969, Alger, et puis de manière un peu plus générale, tous les mouvements politiques d'internationalisation qui peuvent se jouer dans ce point névralgique de l'histoire, de l'Afrique et du monde. Et ça m'a fait penser que c'était pas le seul moment où il y avait du dialogue. Par exemple, dans le premier film, on peut considérer qu'ils sont trois sur scène. Certes, c'est un dispositif qui n'est pas exactement du dialogue, mais que leurs paroles dialoguent. Dans 22 Hours, elles sont aussi deux, il y a quelque chose qui dialogue. Et dans les autres films, on sent que vous êtes là et qu'il y a un dialogue qui a préexisté la conversation dont vous parliez tout à l'heure, Bouchra Halili. En quoi pensez-vous que ce dialogue-là, et donc cette manière de faire circuler la parole, a une puissance politique ?
Dans Tempest Society, ils sont même plus, puisque après d'autres arrivent. Rannick a été porte-parole d'un groupe de, enfin qui était lui-même membre et le porte-parole d'un groupe de 300 travailleurs nord-africains en grève de la faim en Grèce pour obtenir l'égalité des droits au séjour et au travail et au logement. Malek, qui est aussi dans, en réalité, ils sont beaucoup. On ne s'en rend pas nécessairement compte parce que c'est toujours très minimaliste.
Métonymique là aussi, d'une certaine manière.
Très métonymique, mais ils sont nombreux. Mais dans Foreign Office, ils sont aussi nombreux. Hein. Si on pense à Fanon, Malcolm X, enfin tous les Black Panthers qui sont mentionnés, il y a beaucoup de monde en réalité dans ces films. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde en réalité dans tous les films. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent comparaître ou apparaître. Ça veut dire... Ça veut dire qu'ils sont présents, d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui, je suis la première écoutante des films, puisque moi, je suis là. Donc, d'une certaine manière, c'est à moi que ça s'adresse d'abord. Mais en réalité, ça ne s'adresse pas à moi, ça s'adresse à ceux qui sont derrière.
Et c'est en ça que je parle d'une force politique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce dialogue, ou bien que vous vous portez directement, ou que vous filmez, ou que vous nous montrez, il fait qu'il y a quelque chose qui va nous être adressé nécessairement. Parce que la parole, elle est déjà mise, elle n'est pas... Même dans les discours où les personnes sont seules, on sent que c'est avec plusieurs, pour plusieurs, toujours.
Bah, ça répond à votre première question. Qui parle quand quelqu'un parle ? Plusieurs. Toujours. Même si c'est une seule personne qui parle. Dans 22 Hours, Kiana et Vanessa sont seules pendant à peu près 30 minutes. Et puis apparaît Douglas Miranda. Ils sont trois. En réalité, ils sont beaucoup plus. Mais ils sont beaucoup plus depuis le début. C'est juste le moment où ça devient évident.
Il y a une histoire des vainqueurs, qui est l'histoire qu'on voit partout, à la télé, dans les bouquins d'histoire, et qui est une histoire qui est beaucoup plus sourde, cryptique, qui reste souvent cachée, underground. Je dis underground comme un peu parce qu'elle peut passer à travers des fanzines, des disques, des chansons, mais qu'elle est souvent beaucoup moins visible comme ça, qui est un peu l'histoire des gens qui sont rentrés en lutte, qui sont souvent ceux qui sont vaincus dans l'histoire, mais qu'on n'a pas envie qu'ils le demeurent toujours. Et pour nous, c'est précisément un travail sur l'imaginaire, dans le sens où on n'avait pas envie d'attendre que notre histoire soit posthume, soit lointaine pour la faire. On avait envie d'une histoire qui aille immédiatement retravailler les expériences politiques qu'on avait vécues et qui dise ici et maintenant, il y a tout un tas de possibilités de vivre et lutter qui sont présentes et cette substance-là, elle ne doit pas simplement se raconter à travers des manifestes théoriques, des programmes, des analyses politiques, mais ce qui peut donner envie, ce qui peut exciter là-dedans, c'est aussi le côté sensible, les histoires, l'amour, les liens affectifs, un ensemble de choses qui rendent compte, je parlais de la joie tout à l'heure, de la densité des vécus, et quand on parle d'imaginaire, c'est pas forcément pour le mettre en vis-à-vis antagonique avec le côté plus analyse politique, mais c'est de se dire, si on a envie de donner envie, ce côté sensible-là, qui est propre à l'imaginaire, il doit être aussi très présent. On se rend compte que c'est forcément aussi donner du corps à ces luttes, leur donner de la densité, un travail sur l'imaginaire de ce territoire.
On entend ici l'un des membres du collectif Mauvaise Troupe au micro de Ruth Stegassi en 2015 et viennent de publier un livre qui s'appelle Constellation. Ce membre du collectif dit qu'il faut non seulement écrire au présent l'histoire de ceux que l'on considère être les vaincus en opposition aux vainqueurs, mais qu'il faut l'écrire du point de vue du sensible et de l'imaginaire, pourquoi pas pour exciter la lutte. Dans le film qui participe au dispositif Foreign Office, Bouchra Khalili, ces deux personnes, citant Katabi Yassine sur la langue française comme un butin de guerre, disent qu'il faut aller plus loin et considérer qu'il n'est pas seulement question de savoir, de parler français, mais de savoir quelles histoires sont manquantes et de parler français
ou autre chose,
ces histoires manquantes. Est-ce que parler ces histoires manquantes, c'est, pour aller dans le sens de la personne qu'on vient d'entendre, peupler l'imaginaire autrement ?
Alors d'abord, je dois préciser quelque chose, c'est que Foreign Office est parlé en arabe dialectal algérien, en kabyle, en français, en anglais, même en portugais, en espagnol par moment, très court.
Toujours sous-titré pour nous.
Toujours sous-titré. mais dans le simple fait que, par exemple, ils parlent en arabe dialectal et en kabyle, ils sont déjà en train de citer Katabi Yassine avant même de le citer à la toute fin du film, puisque de certaine manière, ils répondent à une question qui se pose au Maghreb depuis l'indépendance, à savoir, quelle langue parlons-nous et par conséquent, qui sommes-nous ? Mais c'est, à ma connaissance, ça arrive très très rarement, en tout cas dans un film, qu'on voit un locuteur d'arabe dialectal algérien parler avec un locuteur de kabyle et qu'ils aient l'air de parfaitement se comprendre. En soi, c'est déjà une sorte d'utopie réalisée de l'indépendance des pays d'Afrique du Nord, puisque la question linguistique est réglée. Nous sommes créoles et nous parlons l'arabe dialectal, le français, le berbère ou le kabyle ou l'amazigh, et tout ça de manière tout à fait naturelle et spontanée. C'est pour ça qu'il parle aussi de Katabi Yassine.
Et chose que n'a pas pu observer Katabi Yassine.
Et chose que Katabi Yassine n'aura pas vue. Donc c'est pas du tout un hasard s'il termine avec Katabi Yassine et qu'il reprenne cette citation qui a été attribuée à plein de gens. Le français est notre butin de guerre, c'est Katabi Yassine qui l'a dite. Mais à la limite, la raison pour laquelle il le précise, c'est qu'en réalité, ce qu'ils disent, c'est que la langue n'appartient à personne. Il n'y a pas de droit de propriété sur la langue, et par conséquent, il n'y a pas non plus de droit de propriété sur...
les histoires qu'on peut raconter. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends de ces deux jeunes gens...
Je ne le dirais pas comme ça, parce que... Mauvaise Troupe, il parle du point de vue de militants politiques. C'est pas nécessairement les points de vue de ceux qui apparaissent dans mes œuvres. Par ailleurs, il y a aussi quelque chose que je dois préciser, c'est que, comme moi, il y a beaucoup de participants à mes projets qui appartiennent à des traditions orales. Donc, pour nous, l'histoire des vaincus, c'est notre histoire, puisque c'est celle qui se raconte oralement. C'est pas celle des manuels d'histoire tels que validés par les différents ministères des éducations nationales, en l'occurrence des pays du Maghreb. C'est des histoires qui sont de toute façon des histoires orales, puisqu'elles peuvent pas être racontées autrement. Lorsque je vous disais que Foreign Office était un projet auquel je réfléchissais avant même de devenir artiste, c'est parce que c'est une histoire qu'on m'a racontée. Et si elle m'a été racontée oralement, c'est justement parce qu'elle n'appartient pas à l'historiographie officielle. Donc lorsque Mauvaise Troupe parle de raconter l'histoire des vaincus, il parle de raconter l'histoire des vaincus à l'intérieur d'un espace culturel où c'est l'écrit qui vaut. Mais on peut aussi considérer que raconter des histoires oralement est de fait une forme de résistance à la disparition ou à l'effacement des histoires depuis la perspective du pouvoir qui institue l'historiographie officielle. Et c'est pour ça qu'effectivement la question du rapport à l'histoire est très présent à l'intérieur de l'exposition, mais toujours du point de vue de ceux qui en sont d'une certaine manière les héritiers, dont on aurait voulu qu'ils n'en héritent pas.
Je vous remercie beaucoup, Bouchra Khalili. Cette exposition s'appelle Blackboard. Elle est visible jusqu'au 23 septembre prochain au Musée du Jeu de Paume à Paris. Et on peut se procurer le livre à l'intérieur duquel on voit certaines images et on peut lire trois textes. Quatre.
Quatre, oui.
الحلوة وعدت وأهلت في الموعد تخطر كالبال لهفت روحي حين أطلت نستقبلها بالأحضان وبفرحة أسعد إنسان وبقلب يرقص نشوان
Au son ce soir, c'était Jean-Guilain Meige à la réalisation, tant qu'elle voudra, Lise-Marie Barré, Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain Debec-Delièvre m'aident à penser et préparer cette émission. Vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain à 21h.